Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui. Au sommaire de cette édition du mercredi 7 février 2024. Crise politique au Sénégal, Washington juge non légitime le vote du report de la présidentielle et l'opposition sénégalaise appelle à un grand front uni contre Macky Sall. Le Mali affirme ne pas être tenu par le délai d'un an pour sortir de la CEDEAO. Dans l'est de la RDC, intensification des combats dans le Massissi.
Des centaines de personnes avec tous leurs biens sur les dos ou sur la tête affluent depuis mercredi matin sur la route Goma-Saké.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Au Proche-Orient, Anthony Blinken espère un accord sur les otages à Gaza, mais estime qu'il reste beaucoup de travail à faire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti aujourd'hui que le monde se trouve dans une ère de chaos. Et en sport, ne manquez pas notre journal de la CAN. Dans un instant, jour de match, les demi-finales se jouent aujourd'hui. Nous ouvrons cette édition avec le journal de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Les demi-finales se jouent ce soir. La première oppose en ce moment même le Nigeria à l'Afrique du Sud au stade de la paix de Boaké. Le score reste vierge après une demi-heure exactement de jeu. 0 but partout. Direction Abidjan pour retrouver notre envoyé spécial Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Le vainqueur de la demi-finale Nigeria-Afrique du Sud va affronter en finale le pays hôte, la Côte d'Ivoire ou la République démocratique du Congo, les deux s'opposant tout à l'heure à 20h temps universel au stade Alassane Ouattara de Bempe, ici à Abidjan. Ivoiriens et Congolais s'étaient déjà rencontrés à ce stade de la compétition en 2015, un match remporté par les éléphants 3-1 qui ont ensuite accroché leur deuxième étoile dans l'histoire de la CAN. La Côte d'Ivoire va évoluer sans 4 de ses titulaires suspendus, Gisèle Konan, Serge Aurier, Ivan Kossounou et Oumar Diakité. Pas grave, selon son sélectionneur, par intérim.
Quoi qu'il arrive, à chaque match, nous on est 27, donc à chaque match on a 4 joueurs qui sont en tribune, donc ça sur ce point-là, ça changera rien. Après c'est des joueurs avec des caractéristiques qui nous ont beaucoup apporté sur les deux derniers matchs, donc oui c'est aussi une perte, mais pour finir, je vous dirais que moi, depuis le début, je vous parle de groupe, je vous parle d'état d'esprit, je vous parle des 27. Bon, ceux qui seront sur le terrain au début et qui rentreront par la suite, et ceux qui sont sur le banc qui n'auront pas la chance de rentrer, je sais qu'ils vont beaucoup, beaucoup apporter à l'équipe et au groupe.
Emers Faye, sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire, mené en 8e de finale face au Sénégal avant de s'imposer au tir au but, les éléphants ont subi le même sort devant le Mali en quart, où ils se sont imposés en prolongation. D'aucuns parlent de miracle, mais Emers Faye évoque l'état d'esprit de ses poulets.
On ne veut pas se relâcher et se cacher juste derrière le fait que, comme on est passé grâce à un miracle, c'est un signe du destin qui veut dire qu'on va aller chercher la coupe. Je pense que la coupe, si on veut la laisser à la maison, il faut que nous-mêmes on fasse les efforts pour que justement les scénarios du match tournent en notre faveur et que les miracles soient de notre côté. Mais tout dépendra de l'état d'esprit et de ce que nous, on va mettre déjà à l'intérieur. Parce que, je le répète une fois de plus, le miracle contre le Mali, il n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas venu comme ça. Il est venu parce que les joueurs, ils se sont battus. Déjà, ils y ont cru jusqu'à la fin. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Ils ont été chercher les choses jusqu'à la fin. Et les miracles, ils viennent que comme ça.
Emers Faye, sélectionné par intérim de la Côte d'Ivoire. Cet optimisme est partagé dans les rues d'Abidjan.
Il y a confiance à nos joueurs. Voilà, parce qu'ils sont brillants. Et la bénédiction de Dieu aussi, ça va aller. Voilà. J'espère que la Côte d'Ivoire va gagner. Je suis sûr que la Côte d'Ivoire va gagner au moins 3-0.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, c'est bon.
Le match, c'est devenu un match entre pays de danseurs. Les Congolais là disent que tous ceux qui ne savent pas danser là, ils les battent. C'est pourquoi ils ont battu la Guinée. Et ils disent qu'ils dansent mieux que vous. Donc, ils vont vous faire sortir ce soir.
Seigneur, ils savent danser plus que nous, les Ivoiriens. Rikaskas, avec la rumba, c'est que ça va chauffer. Nous, on a coupé, décalé, c'est la Côte d'Ivoire. Mais c'est fort. Quand les joueurs là, ils courent et puis ils tombent, ils tournent, ils roulent là. Tout ça, c'est du casse-casse.
Il n'y a jamais 2 sans 3. Donc, vraiment, on est ressuscité là. On ne peut pas mourir encore. Jamais. La coupe là, c'est pour nous. Les Congolais même savent que c'est pour nous. Équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de petits joueurs dedans. Nous, tout le monde là, c'est les pros. Voilà. Même les banquetiers, même c'est les pros. Donc, nous, on ne chauffe pas. Et on n'a pas peur.
Vous n'avez pas peur de Congolais?
Non, on n'a même pas peur de Congolais. Peu Van Nden, que Kofi Olomide même a dit, que lui-même il sait que la victoire, mais c'est pour les Ivoiriens. Donc, où est le problème?
En face, les Léopards ont aussi envie de remporter ce trophée et bien avant battre la Côte d'Ivoire. La dernière fois qu'ils l'ont fait, c'était en 1974, depuis un demi-siècle donc.
Bien sûr qu'on rêve. C'est normal qu'on rêve et je crois que c'est quelque chose de bien aussi qu'on rêve d'emporter cette CAN. Ce serait incroyable. Et je crois que c'est une normalité que tout le monde entre nous, on se parle aussi. Mais maintenant, le focus est sur le prochain match et c'est sur cette demi-finale. Parce que sans cette demi-finale, on va pas arriver en finale. Et c'est à cause de ça qu'on doit tout donner dans ce match et le prendre comme si ça serait le dernier et tout donner.
Charles Piquel, joueur de la RDC. Les supporters congolais disent avoir confiance en leur équipe.
La RDC va la remporter, va remporter ce match avec un score de 2-0. On n'a pas perdu encore un match. Ils verront bien comment on va soulever la coupe là dans ce pays. Et on va faire un concert gratuit. Hein. Fally va le faire un concert gratuit.
Ils vont pas danser.
Ils vont danser. C'est gratuit. C'est Dicap la merveille. C'est Dadu quand même.
Que le meilleur gagnant, en tout cas, c'est nous les Congolais, on va gagner. Parce que oui, on va faire la rumba, on va zouker sur eux. On va faire Toro, Toro, et puis on va faire Fimbo, la Fimbo. C'est pour les chicoter normalement.
C'est ici que nous refermons cette fenêtre consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Yacouba Ouidraogo, Abidjan, pour VOA Afrique.
Georges Billon, de retour à Washington pour vous présenter le reste de l'actualité en Afrique et dans le reste du monde. Les États-Unis jugent que le report de la présidentielle au Sénégal et la prolongation du mandat du président Macky Sall n'est pas légitime. C'est la réaction la plus critique à ce jour d'un important partenaire face à la crise politique en cours dans ce pays. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
Les États-Unis sont profondément préoccupés par les mesures prises pour repousser l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal et qui vont à l'encontre de la forte tradition démocratique du pays, a affirmé le département d'État dans un communiqué. Selon le département d'État, le vote ne peut être considéré comme légitime et demande instamment au gouvernement du Sénégal d'organiser l'élection présidentielle conformément à la Constitution et aux lois électorales. Aussi, le sénateur démocrate Ben Cardin, président de la Commission sénatoriale des relations étrangères, constate que le report de la présidentielle place le pays sur une voie dangereuse vers la dictature et ne doit pas être toléré. Il ajoute que le président Macky Sall doit annuler cette décision imprudente et veiller à ce que les élections aient lieu avant la fin de son mandat constitutionnel. L'opposition sénégalaise a appelé mercredi à la constitution d'un large front pour faire reculer le président sénégalais. 11 candidats ou leurs représentants constitués en collectif sur les 20 retenus ont fait face à la presse à Dakar. Ils ont affirmé maintenir le 25 février comme jour du scrutin et poursuivre leur campagne électorale dont le démarrage était prévu dimanche.
Dans la foulée du report de la présidentielle sénégalaise, la ministre d'État Awa Marie Kolsek a démissionné. L'ancienne ministre de la Santé déclare se retirer de ses fonctions officielles pour rester en adéquation avec ses convictions personnelles et ses valeurs selon son service de communication. Awa Marie Kolsek est la deuxième personnalité du gouvernement à rendre le tablier en moins d'une semaine. Samedi dernier, le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Koulibaly, a annoncé sa démission. Le Mali dit ne pas être tenu par le délai d'un an pour sortir de la CEDEAO. Bamako se considère délié dès à présent de ses obligations vis-à-vis de la CEDEAO après l'annonce de son retrait et non pas dans un an, indique un document des affaires étrangères. Davantage avec Nani Talani.
Le gouvernement du Mali n'est plus lié par les contraintes de délai mentionnées à l'article 91 du traité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dit le ministère des Affaires étrangères. La diplomatie malienne affirme que la CEDEAO a elle-même rendu le traité inopérant quand elle a manqué à ses obligations en fermant en janvier 2022 les frontières des États membres avec le Mali, lui interdisant l'accès à la mer. La CEDEAO, à l'époque, a imposé de lourdes sanctions au Mali pour forcer les militaires à s'engager sur un calendrier acceptable pour le retour des civils au pouvoir. Le gouvernement malien réitère le caractère irréversible de sa décision de se retirer sans délai de la CEDEAO en raison de la violation par l'organisation de ses propres textes. Les régimes militaires de l'Alliance des États du Sahel ont formellement notifié à la CEDEAO fin janvier le retrait sans délai de l'organisation sous-régionale.
La CEDEAO, qui doit se réunir jeudi, n'a pas réagi dans l'immédiat. Les parties au conflit au Soudan ont accepté de se réunir sous l'égide des Nations Unies, éventuellement en Suisse, pour discuter d'aide humanitaire à partir d'une date non encore déterminée, a annoncé l'ONU ce mercredi. Les Nations Unies ont par ailleurs lancé un appel de fonds de 4,1 milliards de dollars pour répondre en 2024 aux besoins humanitaires de la population soudanaise. Le gouvernement zimbabwéen a décidé mardi d'abolir la peine de mort après des mois de débats au Parlement, choisissant d'imposer de longues peines d'emprisonnement pour les délits les plus graves. Le Zimbabwe a procédé à sa dernière exécution en 2005. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a été condamné à mort pendant la lutte pour l'indépendance contre la domination britannique, a fait pression pour mettre fin à la peine de mort.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En visite en Israël, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a répété qu'il reste beaucoup de travail à faire pour parvenir à une trêve à Gaza, incluant la libération d'otages. Claire Morizibou.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré à Jérusalem le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Monsieur Blinken a dit espérer reprendre la libération des otages et a discuté avec Israël de pas supplémentaires pour acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les Gazaouis souffrent des conséquences des attaques perpétrées par le Hamas et sont désormais pris au milieu des combats, a-t-il ajouté. Un nouveau cycle de tractations parrainé par l'Égypte et le Qatar doit s'ouvrir jeudi au Caire. Le Hamas a donné son accord de principe et la balle est maintenant dans le camp israélien. Le Caire exhorte les deux parties à faire preuve de souplesse. Le projet de trêve prévoit notamment une pause des combats de 6 semaines durant laquelle Israël devra libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages, ainsi que l'entrée accrue d'aide humanitaire dans le territoire palestinien.
Le président iranien Ibrahim Raisi a déclaré aujourd'hui qu'il n'y avait pas de justification au maintien de troupes américaines au Moyen-Orient, où elles représentent une menace pour la sécurité, s'adressant aux ambassadeurs en poste à Téhéran à l'approche du 45e anniversaire de la révolution islamique, célébré le 12 février. M. Raisi a de nouveau appelé à ce que les problèmes du Moyen-Orient soient résolus par les dirigeants de la région. Notre monde entre dans une ère de chaos, s'est alarmé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déplorant les divisions sans précédent du Conseil de sécurité, incapable d'agir face aux conflits qui se multiplient. Dilidico.
Ce n'est pas la première fois que le Conseil est divisé, mais c'est la pire. Le dysfonctionnement actuel est plus profond et plus dangereux, a dit Antonio Guterres en présentant devant l'Assemblée générale ses priorités pour 2024. Il a ajouté « Lors de la guerre froide, des mécanismes bien établis ont aidé à gérer les relations entre superpuissances. Mais dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, de tels mécanismes sont absents. Notre monde entre dans une ère de chaos. » S'attardant sur le conflit entre Israël et le Hamas, il a mis en garde contre un éventuel assaut terrestre israélien à Rafah, où s'entassent des centaines de milliers de Palestiniens déplacés. Monsieur Guterres a réclamé à nouveau un cessez-le-feu humanitaire immédiat et la libération de tous les otages. De Gaza à l'Ukraine, du Soudan à la République démocratique du Congo, du Yémen à la Birmanie, les besoins humanitaires sont à un niveau record, mais les financements ne suivent pas, a-t-il déploré. Antonio Guterres a encouragé les gouvernements du monde entier à saisir l'occasion du sommet de l'avenir qui aura lieu en septembre à New York en marge de l'Assemblée générale pour modeler le multilatéralisme pour les années à venir.
Au Pakistan, deux explosions près des bureaux de candidats aux élections dans la province du Baloukistan, dans le sud-ouest du pays, ont tué 24 personnes et en ont blessé des dizaines d'autres, ont déclaré des autorités ce mercredi, soulevant des inquiétudes à la veille des législatives. Les électeurs pakistanais se rendent aux urnes demain jeudi dans un climat marqué par une vague d'attentats ces derniers mois et par la détention d'Imran Khan, le vainqueur des dernières élections. Vous suivez VOA Afrique dans quelques instants, la page magazine de cette session d'information.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En RDC, de nouveaux déplacements de population ont été signalés dans la province du Nord Kivu. Les habitants de Sake arrivent en masse à Goma suite au combat entre les rebelles du M23 et l'armée appuyée par de jeunes connus sous le nom de Wazalendo. Certains habitants de la partie ouest de Goma, craignant pour leur sécurité, se sont également réfugiés dans les quartiers au centre de la ville suite aux explosions de bombes. Reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Se promener de quartier en quartier pour trouver ou recharger son téléphone ou son ordinateur est devenu le quotidien de nombreux Bamakois depuis plusieurs mois. L'emprisonnement d'anciens ministres et de cadres de la société Énergie du Mali à la mi-janvier ne semble pas être la solution. Badou Koba, journaliste.
L'État doit chercher à résoudre les problèmes au lieu de les déplacer. Les arrestations, de mon point de vue, c'est une bonne chose. Il s'agit de détournement de carburant et autres, c'est une réalité. Mais de l'autre côté, c'est le problème technique. Et c'est les populations qui en pâtissent. Et les petites et moyennes entreprises sont en train d'arrêter. Imaginez ceux qui vendent les poissons des mers qui viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Mais ils n'en peuvent plus. Beaucoup ont mis les clés sous les paillassons. Au-delà de ça, ceux qui vendent les poulets de chair, les boutiquiers qui vendent les laits caillés et autres, là. Au niveau de nos hôpitaux, ça ne va pas. Et beaucoup de malades sont en train de mourir faute d'électricité. Les soudeurs ne travaillent plus. Et les boulangers, n'en parlons pas. Les tailleurs passent toute la journée en train de dormir. Donc il y a une paralysie générale. Il va falloir trouver une solution à cela. Parce que ça, c'est une bombe à retardement comme ça.
Sans électricité et avec la saison chaude qui pointe, le ramadan qui débute dans un mois risque d'être compliqué, surtout pour les personnes âgées. Docteur Abdoulaye Sanogo, médecin.
Si y a pas d'électricité, plus la chaleur, ça ne fait qu'aggraver la chaleur. Donc toujours il faut avoir de l'alternative. En tout cas pour répondre à ça, on doit avoir d'autres moyens pour en tout cas essayer de se mettre à l'abri de cette chaleur. Comme l'électricité n'est pas en tout cas permanente, on n'en a pas suffisamment, mais est-ce qu'on va rester dans la chaleur? On doit avoir des moyens pour en tout cas se protéger contre la chaleur.
Si cette période risque d'être critique pour les personnes âgées, il risque de l'être aussi pour les autorités de la transition si le problème n'est pas réglé à temps. Badou Koba, journaliste.
Le mois de Karim, quand même, c'est un mois particulier, c'est le mois béni du Ramadan. Donc le musulman doit vraiment observer strictement le jeûne, il doit se priver de nourriture durant toute la journée. Et au moment de la rupture, s'il n'a pas d'eau fraîche, s'il n'a pas de quoi boire, ça va l'énerver, ça va l'aigrir davantage. Donc je dirais tout simplement que c'est le mois de tous les dangers. Donc il faudrait que le mois de Karim trouve que le problème d'électricité est résolu.
Habitué à recharger gratuitement les compteurs prépayés, les nouvelles tarifications de EDM font déjà grincer des dents. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Vous l'avez compris, nous avions annoncé la RDC, c'est plutôt le Mali qui est venu. Donc au Mali, depuis plus de 4 mois, Bamako vit avec des coupures de courant inédites et intempestives. Entraînant l'arrêt donc de plusieurs activités, les enquêtes ouvertes et les emprisonnements n'ont jusque-là pas permis de trouver une solution aux grandes dames des Maliens. Et c'était le reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
En RDC, de nouveaux déplacements de population ont été signalés dans la province du Nord Kivu. Les habitants de Sake arrivent en masse à Goma suite au combat entre les rebelles du M23 et l'armée appuyée par des jeunes connus sous le nom de Wazalendo. Certains habitants de la partie ouest de Goma, craignant pour leur sécurité, se sont également réfugiés dans les quartiers au centre de la ville suite aux explosions de bombes. Reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Des centaines de personnes avec tous leurs biens sur les dos ou sur la tête affluent depuis mercredi matin sur la route Goma-Sake. Ces personnes fuient la cité des Sake à 27 km à l'ouest de Goma où les combats entre l'armée congolaise et le rebelle du M23 s'intensifient. Eric Touissabé s'est enfui à moto avec ses 4 enfants. Leur objectif étant de rejoindre Goma, espérant être à l'abri des bombardements qui minent la cité de Sake.
Je peux dire au gouvernement d'être clair sur cette situation. Il y a une carte qui se joue. Il vaut mieux faire la lumière sur la situation au lieu de laisser nos jeunes mourir au front, qu'ils nous disent ce qui ne marchait pas.
Les centaines de déplacés qui affluent à Goma, espérant se mettre à l'abri du danger, semblent se jeter dans la gueule du loup. Trois explosions des bombes ont été signalées dans l'ouest de Goma, causant des dégâts matériels et humains, une situation qui suscite la peur à Goma. Kavira Daliv a été témoin d'une explosion.
Je n'ai pas pu aller voir les blessés. J'ai eu très peur et je ne pouvais pas me déplacer car l'explosion a eu lieu à quelques mètres de ma maison.
Le centre de santé Mugunga 3 a été endommagé par une explosion qui n'a heureusement pas fait de victimes humaines. Étienne Habamugisha, infirmier traitant, demande les autorités à redoubler d'efforts dans la recherche de la paix.
Si la situation continue ainsi, nous risquons de ne plus travailler car personne ne viendra se faire soigner à l'hôpital de peur d'être tué par les bombes. La peur s'installe et les patients ne veulent plus être hospitalisés.
Lundi dernier, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a annoncé que les autorités feront tout pour que Goma ne tombe pas entre les mains des rebelles du M23, mais les combats intenses se poursuivent sur les collines surplombant Sake. Sanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Du 5 au 8 février 2024 se tient à Cape Town en Afrique du Sud le Mining Indaba. Dans la droite ligne des objectifs de ce forum, les États-Unis ont contribué au financement d'une ligne de chemin de fer pour l'exportation du cuivre de la RDC au port de Lobito en Angola et aux marchés internationaux. Sur les objectifs du partenariat pour la sécurité des minéraux, Eric Manirakiza a joint à Cape Town Joanne William Schmontzis, porte-parole de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Et un des objectifs clés du gouvernement américain, c'est de promouvoir le partenariat pour la sécurité des minéraux ou le Mining Security Partnership, qui est une initiative américaine avec quelques partenaires, quelques autres pays partenaires, pour en fait promouvoir un investissement responsable dans le secteur minier en Afrique. Le partenariat vise à sécuriser et diversifier les chaînes d'approvisionnement et approfondir les liens commerciaux entre l'Afrique et les pays de l'Ouest.
Comment le partenariat envisage-t-il d'adresser les défis spécifiques tels que l'exploitation illégale, le trafic et les conflits associés à l'industrie minière?
Le partenariat a pour objectif non seulement l'exploitation des ressources naturelles du continent, mais aussi à établir en Afrique la chaîne de valeur pour leur exportation. C'est-à-dire, on ne va pas demander aux pays africains d'exporter leurs ressources naturelles comme qu'elle est, mais aussi pour transformer ces ressources, pour transformer les minéraux, pour avoir une partie plus importante de la chaîne de valeur pour les produits finaux. Et aussi, je veux mentionner que sous le partenariat, on envisage à attirer un investissement plus responsable pour le continent, un investissement dans le secteur minier, des compagnies, par exemple, des initiatives qui respectent les droits de l'homme, les droits des ouvriers, et aussi l'intégrité de l'environnement.
Quelles mesures concrètes Washington prévoit-il de prendre pour renforcer la collaboration avec les gouvernements africains et les acteurs locaux afin de promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et le développement durable dans le secteur minier africain grâce à ce partenariat?
Le gouvernement américain et ses partenaires internationaux essaient d'attirer pour le secteur minier en Afrique. Ce sont des compagnies plutôt occidentales qui respectent les normes démocratiques, les droits humains, etc., dans le secteur. Et il est important à noter que ces compagnies, elles doivent répondre au système judiciaire dans leur pays d'origine et aussi à leurs actionnaires. Lorsqu'on attire dans le secteur un investissement plus large, de l'Occident. On peut compter sur des investissements plus responsables et des compagnies plus respectueuses des intérêts des peuples africains.
Joan William Schmonchies, porte-parole de langue française du département d'État.
Alexandrine Rolonio dans Washington Forum cette semaine. Le Parlement du Sénégal a entériné le projet de loi visant à repousser la présidentielle du 15 décembre 2024. Le président Macky Sall restera dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, précise une autre disposition de la loi. Comment cette décision affecte-t-elle la crédibilité et la légitimité du processus électoral? Quels risques potentiels pour la stabilité du pays? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche.
Un nouveau sondage indique que les Américains sont préoccupés par la gestion de l'économie par le président démocrate Joe Biden, malgré les annonces répétées de son administration sur des chiffres économiques positifs. Nathalie Barge relate un compte-rendu d'Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche.
Selon l'administration Biden, l'économie américaine est en plein essor. La vice-présidente Kamala Harris en campagne électorale en Caroline du Sud.
Over the past three years, President Biden and I have lowered costs.
Au cours des trois dernières années, le président Biden et moi avons réduit les coûts, créé des opportunités et bâti une économie qui fonctionne pour les travailleurs. Nous avons créé 14,5 millions d'emplois et augmenté les salaires de dizaines de millions d'Américains. La confiance des consommateurs est en hausse et leurs dépenses de consommation ont atteint un niveau record. Et même si nous avons encore du travail à faire, soyons clairs, l'économie américaine continue d'être la plus forte au monde.
Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, est également optimiste.
Nous avons l'impression que l'inflation diminue. La croissance a été forte. Le marché du travail est solide. Ce que nous essayons de faire, c'est d'identifier une position confortable de l'inflation en la ramenant à 2% afin que nous puissions revenir sur sa limitation.
Toutefois, un nouveau sondage du cabinet de recherche Ipsos montre qu'une minorité d'Américains approuve la politique économique de Joe Biden. Cliff Young, président des affaires publiques d'Ipsos.
Biden aborde 2024 dans une position affaiblie. Nous l'avons à ce stade avec un taux d'appréciation de 38%. Et c'est important car, d'après notre expérience, un président en exercice avec un taux de plus de 40% a plus de chances de remporter les élections.
Comme la plupart des consommateurs, les partisans de Joe Biden reconnaissent subir l'inflation de plein fouet. Sandra Trower, lors du vote de la primaire démocrate en Caroline du Sud.
Les prix des produits d'épicerie sont élevés, plus élevés que ce que nous avons vu pendant un certain temps. L'essence aussi, mais ce qui m'encourage, c'est que les taux d'intérêt hypothécaires commencent à baisser.
De son côté, le challenger de Joe Biden, l'ancien président Donald Trump, vante son sens de l'économie auprès des électeurs, tout en faisant face à quatre affaires pénales et à un jugement civil pour fraude commerciale présumée.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter, la plateforme Instagram et pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.